www.libradio.org. La radio qui entretient le suspense.
Voilà, donc nous sommes toujours en direct depuis notre nouveau studio chauffé au 99 rue de Lyon. Ça s'appelle le Studio 99 pour une émission en direct et en public. D'ailleurs, nous ne saurions trop te recommander, chère auditrice et chers auditeurs, de venir nous rejoindre à tout moment. Comment est-ce que tu le fais ? Eh bien, tu agites tes jambes et puis tu te rends avec le bus 10, 6 ou 19 à l'arrêt Guy. C'est à 7-8 minutes de la gare à peu près. Et là, en face, il y a un bâtiment qui s'appelle l'espace quartier 99. Nous y sommes, nous y siégeons. Et pour que l'on vienne t'ouvrir la porte, tu nous fais un petit message, soit sur le Facebook avec un téléphone adéquat, soit tu nous fais un petit SMS au numéro suivant 079 775 99 68 et nous serions ravis de venir t'ouvrir la porte. Nous sommes en direct jusqu'à 17h aujourd'hui et nous sommes maintenant en compagnie des personnes qui représentent le CETIM qui vont se présenter d'elles-mêmes. Le CETIM, qu'est-ce donc que le CETIM ? On va parler de tout ça et puis ensuite eh bien, une fois qu'on aura fait la présentation, on va faire je pense un entretien en deux temps. Hein. D'abord peut-être parler justement, repréciser qu'est-ce que donc que le Centre Europe Tiers Monde, quels sont ses dessins, ses postures et ses enjeux. Et puis peut-être après une question plus d'actualité sur ce qui se passe en ce moment et puis ce sur quoi le CETIM est principalement actif en ce moment. On peut d'ailleurs rappeler que déjà hier, vous y étiez en soutien de la soirée solidaire pour les Mapuche, pour le peuple Mapuche au Chili. Soirée qui était co-organisée par Nouvelle Génération Chili notamment. C'est ça. Alors,
exact.
Voilà. Alors, qui est-ce qui veut commencer par nous dire qui il est ?
On y va. Je m'appelle Melik Özdan. Je suis directeur du CETIM.
Eh oui, bienvenue.
Bonjour. Moi, je m'appelle Raffaele Morgantini et je travaille avec Melik au Centre Europe Tiers-Monde, dans le programme Droits Humains.
D'accord. Alors voilà, en quelques mots, peut-on résumer le CETIM en quelques mots et si oui, quels seraient ces mots ?
Ben, ça sera un peu difficile parce que le CETIM est vraiment une organisation très originale, ce que j'appelle dans la galaxie associative. Donc, le CETIM, c'est à la fois un centre de recherche et de publication, c'est une association à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, c'est une association qui a le statut d'ONG auprès de l'ONU qui sert d'interface entre cette institution et les mouvements sociaux. C'est une organisation de solidarité internationale. C'est un cadre formateur pour les jeunes diplômés universitaires et les cadres des organisations de la société civile. C'est une organisation qu'on appelle in English think tank, donc c'est un laboratoire d'idées qui contribue au débat public par ses publications, ses conférences, séminaires, etc. Ben, c'est un peu de tout ça, quoi.
D'accord. Et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui me permet d'ailleurs de citer d'ores et déjà l'adresse internet du CETIM, donc www.cetim.ch. Eh bien, c'est cet aphorisme qui est là en bandeau et qui, je trouve, résume bien l'attitude et les valeurs qui sont mobilisées au sein du CETIM. Alors, je vais la lire. C'est « Il n'y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé ». Qui a trouvé cet aphorisme lumineux ? Clairvoyant.
C'est vrai que les fondateurs du CETIM, c'était des personnes visionnaires, il faut l'admettre, puisque le CETIM a été créé en 1970 à Genève. Alors à l'époque, évidemment, c'était l'époque de la décolonisation, c'était l'époque où il y avait déjà des préoccupations par rapport à la protection de l'environnement, c'était une époque où on commençait à s'inquiéter par rapport à la monter en puissance des sociétés transnationales ou les multinationales comme vous voulez. Donc c'est dans ce cadre-là que le CETIM a été créé et je crois que ce slogan résume bien un peu les préoccupations de l'époque, mais malheureusement aujourd'hui la situation s'est aggravée. C'est-à-dire que l'idée c'était de dire il n'y a pas un monde qu'on parlait à l'époque du Sud, des pays du Sud, c'était pas seulement des problèmes là-bas, mais aussi il y avait des problèmes chez nous déjà, puisqu'on contribuait à ce mal développement un peu partout dans le monde par rapport à notre système économique, par rapport à notre système commercial, qui contribuait à ces inégalités, à la montée des pauvretés un peu partout dans le monde.
Oui, peut-être je pourrais rajouter quelque chose là-dessus. Donc ce motto, ce slogan du CETIM, il n'y a pas un monde développé, un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé, c'est, je pense, avant tout une conviction que le CETIM a, et une conviction qui questionne l'a priori positif qui est généralement attribué à la conception occidentale de ce qu'est le développement. Donc, une conception occidentale qui ne correspond pas du tout à la conception de développement que le CETIM mène et essaye de mettre en avant.
Bien sûr. 1970, ça fait donc 47 ans que le CETIM œuvre pour le mieux-être ensemble tout autour du monde. Que peut-on dire à l'aune du 50e anniversaire du CETIM, hein, dans 3 ans, qu'est-ce qui a radicalement changé selon vous dans les enjeux qui vous préoccupent? Je veux dire le rapport entre le Nord et le Sud, le rapport entre les pays du tiers-monde, notamment la question de la dette par exemple, des dettes des pays du Sud. Est-ce que les choses se sont selon vous stabilisées? Est-ce qu'elles ont augmenté? Est-ce qu'elles se sont intensifiées? Est-ce que ça va pire qu'avant? Est-ce qu'on a, comment dire, une voie d'espoir possible? Dites-nous comment vous sentez le CETIM à l'aune de son 50e anniversaire.
Ben, la situation, clairement, s'est empirée. Il faut dire que autant sur le plan des inégalités, sur le plan de la pauvreté, sur le plan de la malnutrition, de la famine dans le monde, ce qu'on appelle les multinationales ou sociétés transnationales, on appelle donc ces entités sont devenues au-dessus des États, au-dessus des lois, donc ne respectent plus rien, et avec leur puissance, elles dictent leur volonté aux États, et en raison des montages juridiques très complexes, elles échappent à tout contrôle juridique et démocratique. Alors du coup, comme on a vu avec les Paradise Papers, donc elles ne payent même pas d'impôts.
Oui.
Donc quand il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas d'État, ça, on le sait. Donc il n'y a pas de service public. Donc voilà, donc la situation malheureusement s'est empirée. Par contre, le slogan du CETIM, ça reste d'actualité, plus que jamais, puisque le questionnement de cette team, depuis le départ, c'était le développement, pour qui, pourquoi, comment, dans quelles conditions, avec qui, etc. Donc ça reste d'actualité. Et sur ces questions-là, le CETIM a publié énormément de livres, énormément de publications. Donc c'est ça qui aussi contribue à la réflexion, au débat public, disons, encore aujourd'hui.
Raphaël, tu voulais ajouter?
Oui. J'aimerais bien mettre en évidence que le fait que depuis quelques décennies, et notamment à partir de l'ère, disons, post-coloniale, donc à partir des années 60-70, ce concept de développement a vraiment pris le dessus de la scène, surtout au niveau économique et au niveau international. Et donc aujourd'hui, justement, les entreprises transnationales se sont donc issues à agents principaux de cette stratégie de développement du système capitaliste, disons-nous. Et donc aujourd'hui, dans la conception générale de développement, on entend que les sociétés transnationales, les institutions de crédit, les banques, etc., ils sont dirigés par un sentiment sincère pour aider les pays soi-disant du tiers-monde, les pays pauvres, à se développer, à suivre, à entreprendre la voie du développement et du progrès économique. Mais la question qu'on doit se poser, c'est de quel type de développement parle-t-on, et est-ce qu'il y a un seul et unique schéma de développement? Parce que dans la vision dominante du développement, telle qu'a été développée dans les milieux académiques des sociétés occidentales, le développement serait un simple schéma vers le progrès et la croissance perpétuelle. Mais là aussi, il faut voir, hein, comme Mélik disait, une croissance pour qui, Et dans la conception de Occidental Development, c'est clairement un développement en faveur des élites dominantes qui dominent le système capitaliste.
D'accord. Quels sont, selon vous, pour le CITIM, vos pairs, PAIRS, vos partenaires, les personnes avec lesquelles vous pensez construire, résister pour le moins à ce qui nous arrive et construire des alternatives, un monde meilleur? Il y a certainement la société civile, le monde associatif. Y a-t-il d'autres partenaires, des partenaires pourquoi pas même institutionnels, des fois même pourquoi pas du côté des politiques? Y a-t-il des soutiens ou en tout cas des réponses qui sont faites? Ou est-ce que bien c'est de plus en plus compliqué de se trouver des compagnons de résistance?
Il est évident qu'il faut agir sur plusieurs plans. Il faut avoir plusieurs acteurs. Et dans le monde interdépendant, de plus en plus, donc, nous sommes obligés d'avoir plusieurs acteurs. Évidemment, les principaux acteurs restent malgré tout, malgré toutes leurs faiblesses, ce sont des États, les collectivités publiques, donc il faut travailler avec. Mais nous, en tant qu'association, nous, le CETIM, nous privilégions de travailler avec les paysans, des organisations paysannes dans le monde, parce que ce sont des moteurs de changement, mais aussi c'est le moteur de réflexion et changement de paradigme par rapport au système actuel que nous avons au niveau commercial, au niveau économique. Nous avons un réseau au niveau mondial très, très important. Donc, par exemple, on travaille avec la Via Campesina. D'ailleurs, nous avons publié un livre il y a quelques
temps. Alors, voilà, on va venir après aux publications. Travail incroyable que vous faites également.
Donc, à la fois... Pour les publications, nous avons ces échanges de réflexions que nous avons à la fois entre les centres de recherche comme le CETIM au niveau mondial, que des mouvements sociaux comme les paysans, comme les syndicats ou des mouvements de femmes, etc. Donc c'est avec tout ce monde-là que nous travaillons, sans négliger bien entendu, puisque le CETIM agit également au sein de l'ONU pour l'obtention, par exemple, de deux instruments juridiques importants au niveau mondial. Donc, une déclaration de l'ONU sur les droits des paysans pour avoir une meilleure protection des paysans familiaux. Et l'autre, c'est d'avoir un traité international contraignant sur les sociétés transnationales.
Tout à fait. Ça, c'est fondamental, effectivement. Qu'on cesse cette impunité de ces transnationales qui se comportent d'une manière complètement ahurissante un peu partout dans le monde et effectivement au secret, puisque souvent, évidemment, c'est accompagné de choses extrêmement discrètes qui sont faites loin de tout contrôle. Sans parler, évidemment, des montages financiers qui sont faits ici. Et là aussi, c'est une autre histoire encore. Alors, dites-moi, selon vous, peut-on dire qu'au CETIM, vous avez... peut-on dire en général, et au CETIM en particulier, que l'on a identifié les sources de nuisances qui pèsent sur ce monde? Première partie de la question. Et deuxième volet, quels outils pour résister? Et là, on va en venir également au fait que vous opérez des publications, que ça, c'est un gros travail. Alors, premier volet, les sources de nuisances, les a-t-on identifiées ou lesquelles sont-elles qu'il nous reste encore à identifier? Et puis la deuxième partie, quels outils pour résister? Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer entre Malik et Raphaël à répondre.
Non, je commence et puis Raphaël complétera. Ah,
c'est très bien.
C'est que les sources de problèmes, principalement, il y a, on vient de parler, le monopole des sociétés transnationales au niveau mondial ou multinationales, si vous préférez, dans tous les domaines de la vie. Pourquoi? Parce que ces entités, seule motivation qu'elles ont, c'est des profits immédiats et le plus grand profit possible. Donc, elles n'ont que faire de la démocratie, des droits humains ou des normes environnementales, les normes sur le travail. Tout ce qui les intéresse, c'est de gagner plus d'argent plus vite possible pour leurs actionnaires majoritaires. Donc, ça, c'est évidemment une des causes principales des problèmes que nous avons au niveau des inégalités, de la pauvreté, au niveau de la destruction de l'environnement, etc., etc. Le deuxième problème, c'est la question de la dette extérieure. Évidemment, jusqu'à hier, c'était surtout les pays du Sud qui étaient concernés. Maintenant, même l'Europe qui est concernée, si on regarde l'exemple de la Grèce en particulier, mais aussi les autres pays européens qui commencent maintenant du Portugal jusqu'en Irlande. Donc, pour nous, notre analyse, en tout cas, sur la question de la dette, c'est un instrument de domination. C'est un instrument de domination pour imposer justement un modèle de développement. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la privatisation à tout prix. C'est l'ouverture des frontières à tout prix à des produits que les peuples n'ont pas forcément besoin. Hein. C'est que, comme on sait, hein, on fait bouffer maintenant aux Européens le bœuf aux hormones avec un glyphosate qu'on a vu que l'Europe n'arrive pas à interdire, etc., etc. Donc, cette question de la dette, vraiment un des instruments de domination qui est utilisé pour contraindre les gouvernements de faire, disons, des politiques qui vont à l'encontre des intérêts de leur population. C'est-à-dire qu'on supprime les services publics, alors que les services publics, tout un chacun a besoin, hein, l'école, l'eau, les transports publics, la santé, etc., etc. Et puis, évidemment, c'est le commerce inégal, parce que le système, enfin le droit commercial qui est imposé maintenant à travers l'Organisation mondiale du commerce favorise les intérêts des sociétés transnationales, fortifie donc le monopole de ces entités au détriment, évidemment, des peuples, au détriment des citoyens, au détriment des services publics, etc., etc.
Et on voit même que... Pardon, Raphaël, tu voulais compléter, ajouter des choses.
Oui, comme tu l'as dit, le CETI maintenant a identifié donc, dans les sociétés transnationales des acteurs de nuisance majeurs. Il faut savoir que, pour vous donner des chiffres, que plus ou moins le 80% du produit du commerce international actuellement est, disons, monopolisé par une poignée de grandes entreprises transnationales qui dictent, ils dictent tout, quoi. Ils dictent les termes de l'échange, les termes de la production et de la commercialisation des biens, des services et de tous les produits. Et donc, c'est pour ça que pour le CETIM, c'est vraiment un thème qui est de vitale importance, donc à la fois pour comprendre le monde dans lequel on vit, pour comprendre le système économique dans lequel on vit et duquel on dépend. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment un débat. Il faut que le débat sur le rôle et l'influence des entreprises internationales doit s'étendre à la collectivité publique dans toutes les dimensions et dans tous les niveaux. Parce que c'est vraiment, ça parle de notre quotidien. De notre quotidien. Et donc, on pense que parler des entreprises transnationales, c'est un argument trop technique, trop tordu et donc trop compliqué. Mais en fait, non. Il faut en discuter parce que...
Et oui, c'est le cœur du problème. Voilà. Effectivement, on disait tout à l'heure, non seulement il y a cette espèce de... Comment dire de, d'accords supranationaux, transnationaux qui permet non seulement à ce commerce de se faire dans une impunité totale, mais il y a également les tribunaux d'arbitrage, hein, qui seront eux aussi le produit de ce système-là et donc évidemment plus du tout opérationnel s'il s'agit justement d'essayer de défendre les droits humains, les droits du travail, etc. On voit que tout ça est vraiment emporté d'un seul coup, notamment avec les fameux traités TISA, TAFTA, CETA et compagnie. J'imagine que c'est là aussi des sujets sur lesquels le CETIM est très actif. Mélique.
Vous avez parfaitement raison. Le grand problème sur ce chapitre-là, c'est ce que j'appellerais le court-circuitage de la juridiction nationale. C'est-à-dire que les tribunaux nationaux ne sont pas compétents. C'est-à-dire que ces entités arrivent à imposer aux États, à travers ces accords commerciaux, et sur l'investissement, ça peut être de manière bilatérale, ça peut être multilatéral, donc de sorte que donc ces entités, donc on peut pas les poursuivre au niveau national en cas de problème. Donc, et puis en plus des tribunaux d'arbitrage que vous avez évoqués, donc ces entités peuvent traîner les États devant ces tribunaux. Mmh. L'inverse n'est pas vrai. Et ces entités peuvent demander des dommages et intérêts qui se chiffrent à des milliards pour des contrats qui tout simplement sont annulés. C'est qu'on ne tient pas compte, évidemment, ni les droits humains, ni les normes du travail, ni les normes sur l'environnement. Ce que compte, c'est le contrat entre un État et une entité multinationale. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Même l'Allemagne, qui est deuxième ou troisième puissance économique mondiale, n'a pas pu faire face à sa décision démocratique de sortir du nucléaire, donc, qui se bat maintenant contre une compagnie sur ce chapitre pour payer des milliards d'indemnités.
On sent qu'il y a des choses extrêmement graves qui ont cours actuellement et qu'il y a une sorte de fuite en avant également. Et effectivement, d'ailleurs, dans ces accords transnationaux, il y a également souvent des clauses de non-réversibilité qui font qu'une fois qu'on privatise quelque chose, on ne revient plus. L'idée, c'est de ne plus pouvoir revenir vers quelque chose de public. On voit qu'il y a beaucoup de systèmes, beaucoup de pièges qui sont mis en place. Et on voit également cette chape de plomb. Ces accords sont négociés quasiment dans le secret des bureaux. Et puis, très peu de gens ont accès aux informations, puisque, si pour simplement parler de TISA, c'est un accord qui est soumis au copyright, donc on n'a pas le droit de divulguer les tenants aboutissants, et pour lequel nous n'aurions pas le droit de les divulguer pour les prochaines années et les 5 premières années d'application théorique, si celle-ci avait lieu. Donc il y a vraiment tout un système là qui est opaque, qui est mis en place.
Oui, tout à fait. Si on prend l'exemple des accords de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, donc au début, ce qui était imposé aux États qui signaient ces accords, de ne pouvoir pas se retirer minimum de 20 ans. Oui. C'est vrai. Oui. Par contre, soyons quand même positifs, pas complètement négatifs. Avec des luttes populaires, on arrive quand même à des résultats. Un exemple, en Bolivie, quand il y a eu ce combat pour l'eau, oui, ou pour la vie. Effectivement, au début des années 2000, l'eau était privatisée dans ce pays-là. Une consortium nord-américain et européen qui gérait l'eau dans ce pays. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Première chose que ces entités font, c'est d'augmenter le prix. Et puis de ne pas entretenir le réseau. Donc, non seulement la qualité de l'eau avait baissé, mais en plus de ça, par exemple, les ménages devaient payer, je ne me souviens plus, mais plus de la moitié de leurs revenus. C'était évidemment très souvent des familles pauvres, devaient payer presque la moitié de leurs revenus pour l'eau. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu des révoltes, il y a eu des manifestations. Donc, le gouvernement de l'époque a envoyé l'armée, il y a eu même des morts, puisque l'armée a tiré sur les manifestants. Par contre, ce qui a permis une prise de conscience et avec un mouvement populaire, donc à la fois ce consortium a été chassé du pays, mais aussi le gouvernement du coup. Donc l'arrivée au pouvoir de Morales donc, n'est pas étrangère à cela. Et ce qui s'est passé, donc ce consortium a essayé d'aller justement devant un tribunal d'arbitrage pour demander des dommages et intérêts. Mais face à une campagne à la fois au niveau national et au niveau international, finalement, ce consortium a estimé que ça ferait plus de mal à son image qu'autre chose. Finalement, a retiré sa plainte. Et par contre, ce que la Bolivie a fait, donc les autres États devraient le faire aussi, de se retirer de ce système d'arbitrage. En fait, c'était le Centre international de règlement des différends, donc géré par la Banque mondiale. Donc la Bolivie s'est retirée. Ensuite, il y a quelques autres pays qui se sont retirés aussi. Donc si ce mouvement continue, d'ailleurs, la même chose aujourd'hui par rapport à ces accords qu'on vient de parler.
Oui.
Même des grands pays comme l'Inde commencent à se retirer. Il y a l'Équateur qui s'est retiré aussi beaucoup des accords commerciaux et d'investissement, parce que tout simplement, ces pays-là ont vu que tout cela, c'est dans l'intérêt unique de sociétés transnationales et non pas de leurs citoyens et de leur peuple.
Oui, je pense que ça serait important de souligner une chose du point de vue juridique, c'est que si le système international économique actuel ou les entreprises transnationales arrivent à influencer, à dicter un peu tout ce qui nous concerne, c'est parce que à partir justement des années 60-70, dans l'entrée de l'ère néolibérale, il y a vraiment le développement d'un cadre juridique qu'on peut appeler un cadre juridique corporatif, privé, qui s'est construit en faveur des intérêts et des besoins de ces acteurs. Et donc, un cadre juridique qui est composé, comme on a dit, des accords de libre-échange, des tribunaux d'arbitrage, des normes qui sont imposées par des entités comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, vraiment un cadre juridique très puissant et qui, de fait, il s'est imposé sur un cadre juridique international qui existait au préalable, c'est-à-dire le cadre juridique des droits humains, du droit international. Et donc, qu'est-ce que nous dit ça? Je pense que c'est important de comprendre que le droit n'est pas quelque chose de neutre, n'est pas quelque chose de statique ni d'abstrait. Au contraire, il faut vraiment comprendre que le droit est avant tout l'instrument qui régit les relations sociales, les relations sociales qui, elles, sont le résultat des rapports de force. Donc, à partir des années 70, malheureusement, les rapports de force se sont inversés en faveur des élites du système capitaliste. Et c'est pour cette raison qu'on a assisté au développement de ce droit corporatif qui permet aux multinationales de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Et donc, le droit, il faut vraiment essayer de l'analyser à partir d'une posture politique et idéologique et pas une posture abstraite.
D'accord. Selon vous, d'où va pouvoir surgir la résistance et d'où va pouvoir surgir le changement? Je vous demande ça parce qu'effectivement, on s'est aperçu, concernant de nouveau ces accords internationaux, tel TISA, que des communes, par exemple, en Suisse, se sont déclarées zones hors TISA, par exemple, Plan Liwat, Genève également. Est-ce que là, vous pensez qu'à l'égal des communautés de base ou des syndicats de base, de ces types d'entités qui partent vraiment de la base, est-ce que depuis là, pensez-vous que l'on puisse surgir quelque chose, surgir une alternative concrète à ce qui nous assiège actuellement? C'est Mélie qui répond.
Pas de souci. Effectivement, les exemples que vous citez sont des bons exemples qui vont dans la bonne direction. Mais on doit avoir donc une convergence entre, disons, ce qu'on appelle la société civile au sens large, des mouvements sociaux, des paysans, des syndicats, des organisations de femmes, etc., etc. Donc, avec les collectivités publiques et avec les États, finalement, qui, jusqu'à un nouvel avis, c'est les États qui décident des normes à édicter, que ce soit au niveau international qu'au niveau national. Donc, évidemment, aussi, il y a des élus, il n'y a pas que l'exécutif, il y a des partis politiques. Donc, il doit y avoir une alliance, une convergence entre toutes ces composantes de la société pour qu'on puisse avancer. D'ailleurs, nous, en tant que CETIM, pourquoi on travaille en réseau? Contrairement à beaucoup d'organisations, nous n'avons pas de section, par exemple, à travers le monde. Nous sommes qu'à Genève, une petite structure, mais par contre, qu'on travaille en réseau. C'est la force aussi du CETIM de pouvoir à la fois s'enrichir au niveau de la réflexion, au niveau des échanges, au niveau des informations du terrain, mais en même temps de construire justement un mouvement, disons, social et politique avec des alliances que je viens de vous signaler. Donc c'est comme ça qu'on va arriver, sinon ça ne marchera pas.
D'accord. Et dites-moi, que pensez-vous de l'assertion suivante? On a souvent dit de l'Amérique latine qu'elle était un laboratoire pour les meilleurs et pour les pires. Est-ce que pensez-vous, parce qu'on a cité tout à l'heure Evo Morales, la Bolivie, est-ce qu'on peut penser que de l'Amérique latine surgisse quelque chose de positif, notamment avec les pays de la révolution bolivarienne? Je pense à l'Équateur avec l'ancien président Correa et maintenant Maduro, l'Uruguay, le Venezuela. Comment est-ce que vous observez la situation en Amérique latine, alors qu'effectivement, si on prend l'Argentine, eh bien Macri, là, c'est carrément autre chose. Voilà. Est-ce que quelque chose pourrait venir comme une forme de modèle des pays d'Amérique latine?
C'est que du côté d'Amérique latine, récemment, bon, Raphaël connaît mieux que moi la zone.
Mais, c'est un natif de... Non, mais... tu es natif de...
Je suis moitié bolivien.
Voilà,
fait.
Moitié bolivien.
C'est que il y a un concept, par exemple, de développement qui est arrivé depuis là-bas, hein, de Bolivie, Équateur, etc. Mm-hmm. C'est le buen vivre.
Exactement. Hein.
Ça, c'est le...
Un peu, c'est socialiste du buen vivre.
Voilà, avec la conception des peuples autochtones de là-bas, etc. Enfin, un mélange, disons, de culture et de vision du monde. Mmh. Donc, c'est vrai, mais par contre, au niveau politique, c'est pas si simple que cela. Dans le cas du Venezuela, on l'a vu, on a asphyxié ce pays, hein, on a organisé la pénurie. C'est comme on a fait contre le Chili d'Allende. Donc, maintenant, dans le pays, on ne trouve pas les produits de première nécessité parce que le pays est mis... à genoux, donc on n'arrive plus à distribuer ou tout simplement importer les biens de consommation. Et puis le prix du pétrole n'arrange pas les choses puisque ça aussi c'est manipulé, comme on sait comment ça marche, qui a baissé très très fortement ces deux, trois dernières années, même si maintenant ça commence à monter légèrement. Donc il y a, disons, plusieurs éléments à tenir compte. Donc, comme nous vivons dans un monde interdépendant, donc il faudra aussi un État ou un pays seul, s'il est seul, n'arrive pas à s'en sortir vraiment, puisque ce système économique qui est pour le moment encore dominé par les États-Unis, par l'Union européenne, même si l'Union européenne traverse une crise majeure, ou Japon, etc., avec cette alliance-là, continue encore gérer les affaires du monde. Et donc, un pays seul n'arrive pas à s'en sortir. Justement, c'est pour ça qu'ils ont créé ALBA, donc cette alliance bolivarienne entre plusieurs pays d'Amérique latine. Donc, ça donne de l'espoir, mais dans la pratique, évidemment, il ne faut jamais laisser... enfin, baisser la garde, comme on dit, la lutte c'est quotidienne et c'est à tous les niveaux pratiquement.
Mmh, d'accord, donc il faut vraiment rester en alerte. Revenons-en au CETIM. Alors on va parler des publications dans quelques instants, mais avant ça j'aurais voulu que vous nous présentiez, disons, les contours, les silhouettes du CETIM. Combien de personnes êtes-vous ici à Genève? Combien de personnes cela représente-t-il? Et puis ensuite, on va venir à ce que peut-être recherche le CETIM. Est-ce que vous êtes à la recherche toujours de main-d'œuvre, de nouveaux bénévoles, de lieux qui vous accueillent? Je ne sais pas. Dites-nous.
Bon, le CETIM est une toute petite structure, même s'il a une grande capacité de travail, hein, une grande capacité de production. C'est que nous avons un peu moins de 400 membres. Donc, entre la Suisse, la France aussi, ailleurs en Europe et dans le monde, Afrique, Amérique et Asie. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Et au niveau du personnel, donc, tout dépend. Hein. Nous avons différents statuts au bureau. On peut être une dizaine de personnes à travailler au bureau, mais tout le monde n'est pas salarié. Donc, ça, il faut le savoir. En plus de ça, nous avons donc, beaucoup de bénévoles autour de nous, puisque nous sommes dans l'édition et dans l'écrit. Et en plus de ça, nous travaillons donc en trois langues par rapport à tout ce qu'on fait en direction de l'ONU, au niveau international. Par exemple, le bulletin que nous publions deux numéros par année, on fait en trois langues. Et c'est l'œuvre vraiment des bénévoles essentiellement, puisque nous n'avons pas de financement pour... rémunérer nos traducteurs. Mais heureusement, nous avons des bénévoles autour de nous de haut niveau qui nous aident à faire cela. Donc, il faut aussi dire qu'il n'est pas évident de trouver aussi des financements. Pourquoi ? Vu le combat de cette team, hein, toujours à contre-courant, on peut dire, hein, pour changer le système, puisque nous savons que ce système... n'est pas vraiment fiable et on ne peut plus continuer comme ça, tout simplement. Et vu que nous travaillons aussi sur ce dossier épineux qui sont les multinationales, que du côté des collectivités publiques, il y a de moins en moins d'argent. Donc, nous sommes, disons, en gros, tributaires de cotisations, des dons et aussi quelques subventions, mais modestes, que nous avons. Évidemment, c'est largement insuffisant. Là, nous avons besoin vraiment de soutien. Je profite, hein, puisqu'on est à l'antenne. Pour là, c'est un appel. Ouais. Donc, nous avons besoin de membres, de nouveaux membres. Et puis, c'est vrai qu'en plus, c'est modeste. Hein, ce n'est pas beaucoup. Nous avons 50 francs par année. Et puis, pour les étudiants chômeurs, c'est la moitié ou retraités. Mais bien sûr, si les gens qui ont des moyens, qui veulent donner plus, c'est toujours bienvenu. Hein. Nous avons lancé aussi, pour un peu combler nos besoins financiers, ce qu'on appelle crowdfunding.
Ah oui,
je
très bien.
Je prononce correctement.
Oui, mais c'est, enfin, voilà, participation, c'est, enfin, le financement participatif.
Voilà, ça c'est GoFundMe.
Oui, ok.
Voilà, sur le site GoFundMe. Nous avons lancé ça récemment. Donc, disons que donc, par ces différentes démarches, nous essayons de faire continuer à faire donc, notre travail. Ce qu'il faut savoir vraiment, on a un budget très modeste, mais avec ce budget modeste, on fait beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on travaille en réseau. Donc, c'est ça la force de cette team. Donc, travailler avec les autres, avec les mouvements sociaux, et puis aussi grâce à nos bénévoles que, au passage, je remercie très chaleureusement.
Que l'on salue, voilà. Nous aussi. Alors, on arrive doucement à la fin de l'entretien. J'ai encore deux petites questions et puis ensuite, je vous laisserai tranquille. Mais, on a bien compris les besoins. Donc, c'est des besoins autant financiers que des besoins humains. On va rappeler le site internet, donc www.cteam.ch. Là, on trouve effectivement toutes les informations concernant le soutien que les personnes peuvent proposer. Quelles sont-elles ? Et on va en terminer ensuite avec les publications, parce que j'ai l'impression que ça, c'est vraiment un gros travail important pour vous. Oui.
Juste avant, Mélique, puisque vous avez parlé de main-d'œuvre, entre guillemets, je dirais que comme nous sommes dans l'écrit, on a toujours besoin de personnes qui relisent nos papiers, hein, en français, en anglais, en espagnol, ou des traductions.
Bien sûr.
Dans ces langues-là, c'est toujours bienvenu.
Absolument. Alors, quelles sont les prochaines actions très concrètement du CETIM ? Qu'est-ce qui va venir là tout soudain ? Et puis, ça c'est pour la première question. Et puis ensuite, je voulais vous interroger sur les publications. Depuis quand ces publications ont-elles cours ? Et qu'est-ce que vous publiez au sein du CETIM ? Est-ce qu'on commence par les actualités, les prochaines choses qui arrivent ?
Moi, je dirais le CETIM depuis quelques années, le travail du CETIM est axé sur deux processus en particulier, deux processus à l'ONU, que c'est des processus de négociation interétatique. Et donc, le CETIM, avec son réseau, fait partie de la société civile qui participe à ces processus et essaye de les influencer, de faire en sorte que ce qui ressort et ce qui ressortira de ces processus soit le reflet des organisations de base, des mouvements sociaux, etc. Donc, le travail de CETIM dans les prochains mois, ça va être centré essentiellement sur ces deux processus. Donc, sur le processus sur les droits des paysans, on espère qu'en 2018, la déclaration sur le droit des paysans va être adoptée par le Conseil des droits de l'homme. Et donc, avec notre partenaire principal, c'est-à-dire la Via Campesina, on va continuer à travailler au niveau de l'ONU, ici à Genève, pour s'assurer que le processus aboutisse et que donc, en 2018, les paysans pourront avoir leur propre déclaration où leurs droits fondamentaux seront finalement codifié au niveau du droit international. Et donc, le deuxième processus, on en a déjà parlé, c'est le processus qui vise à l'élaboration d'un instrument contraignant sur les entreprises transnationales. Donc, maintenant, en octobre 2017, on vient de participer à la troisième session du groupe de travail de l'ONU, qui est en train de négocier ce futur instrument international. Et donc, troisième session, c'était une session très importante parce que pour la première fois, la présidence du groupe de travail, c'est-à-dire l'Équateur, a mis sur la table de négociation un instrument. Un instrument, c'est-à-dire pas encore en projet de traité, mais en document d'éléments. C'est le jargon, document d'éléments, c'est-à-dire un document où la présidence du groupe de travail a élaboré les éléments qui vont devoir figurer dans le futur traité international sur les multinationales. Le CETIM, avec son réseau, nous avons travaillé durement durant cette année 2017 pour arriver à ce groupe de travail, à cette session en octobre 2017, avec notre propre proposition de traité sur les multinationales et les droits humains. Et donc, en octobre, nous avons soumis officiellement au groupe de travail ce traité. C'est un traité très dense. Si vous allez sur le site internet du CETIM, vous pouvez le lire.
Pour influer sur les négociations.
Voilà, oui. Donc ça, c'est vraiment le fruit d'un long travail collectif, un processus très large de collaboration entre tous les mouvements sociaux, les organisations, les communautés affectées, les syndicats, les organisations paysannes. Hein. Et donc, c'est vraiment à voir comme l'instrument politique qui reflète l'essentiel des luttes, des revendications de la société civile. Et donc voilà, comme dit Mélik, c'est vraiment l'outil que nous on utilise pour essayer d'influencer ces négociations. C'est l'outil qu'on utilise dans notre travail de plaidoyer auprès des États, c'est-à-dire on va chez les États et en quelques mots on va dire voilà, ça c'est ce que les organisations de base veulent, ça c'est ce que les gens souhaitent. Et donc voilà, inspirez-vous de ce traité-là. Et voilà, donc notre but, c'est vraiment faire en sorte que les propositions qui sont incluses dans ce traité-là soient intégrées par les différentes missions étatiques ici à l'ONU. Parce que donc en 2018, pendant la quatrième session du groupe de travail, l'Équateur va devoir développer ce premier document qu'ils ont présenté cette année, c'est-à-dire ce document d'éléments. Ils vont devoir élaborer et présenter en vrai projet, hein, un vrai projet de traité, comme nous, on l'a déjà fait. Donc nous, on a essayé d'anticiper les temps, hein, espérant que
pioche un petit peu à l'intérieur, bien entendu.
C'est pas seulement l'espoir. On va faire en sorte que les États prennent à leur compte nos propositions.
Voilà.
Et c'est important de savoir que ça va être... c'est pas on travaille qu'à l'ONU ici. C'est pas... Justement, c'est vraiment... Le travail qu'on fait à l'ONU est tout à fait complémentaire avec le travail de mobilisation que toutes ces organisations de ces réseaux font au niveau national. Donc les organisations paysannes vont prendre ce traité, ce projet de traité qu'on a élaboré, et vont l'utiliser au niveau national, hein, pour mettre pression sur leur gouvernement. Les syndicats, les organisations féministes, les organisations de peuples indigènes, etc. Donc la lutte se fait sur deux dimensions. Il y a la dimension plus institutionnelle, l'ONU, ici à Genève, avec les missions diplomatiques, mais il faut pas oublier le niveau national. Donc c'est vraiment les deux sont complémentaires.
Absolument. On en arrive au dernier point, les publications. Ça, c'est un énorme travail, d'un point de vue humain et d'un point de vue financier. Comment est-ce que vous arrivez à produire toutes ces publications et comment est-ce que vous les sélectionnez? Pourquoi ça plutôt que ça?
Ça va naturellement. La sélection, c'est... Nous avons déjà parlé sur les questions du développement tout d'abord, hein, pour qui, pourquoi, comment. Par exemple, un des livres que nous avons publié il y a quelques années s'appelle « Quel développement, quelle coopération internationale ?» Donc évidemment, c'est un choix. Nous avons publié aussi récemment, parce que nous avons publié plus de 150 livres, hein. On ne peut pas tout présenter, mais très rapidement.
Mais il y a un catalogue à disposition sur le site internet.
Oui.
Donc il y a un catalogue sur CETIM.ch. Édition du CETIM. Mais oui, absolument. Voilà. Il y a un onglet édition du CETIM. Très bien.
Il y a un autre livre qu'on a publié récemment, s'appelle Le commerce et la guerre de Yash Tandon. Donc ça explique comment justement ce droit international en matière de commerce est négocié, comment c'est imposé aux pays du Sud. Un livre plus récent, La souveraineté au service des peuples, de Samir Amin, Et un autre livre, c'est Le gaz de schiste. Donc,
oh là là.
L'exemple d'Argentine, puisque l'Argentine est utilisée comme un laboratoire pour
pour la fraction.
Pour la fraction, pour exporter au niveau mondial. Nous avons un deuxième type de publication, c'est la collection Pensées d'hier pour demain. Donc, nous avons commencé avec l'Afrique, avec des leaders africains comme Sankara, comme Fanon, Cabral, etc.
Oulala.
Donc vous avez la primeur. Donc il y a deux nouveaux livres qui viennent de sortir. Donc on va diffuser très prochainement. C'est sur Nasser, donc héros d'Égypte et du monde arabe.
Tout à fait.
Et Ruben Niobe, qui est moins connu, c'est vraiment le pionnier de la souveraineté du peuple camerounais. Donc ces deux livres.
D'accord.
Et puis nous avons encore une troisième catégorie de livres, c'est ce qu'on appelle la série des droits humains. Donc jusqu'à présent, donc, nous avons publié pratiquement sur tous les droits économiques, socioculturels, comme le droit au logement, le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation, sur le droit à la santé, etc. etc. Ce sont des publications didactiques donc, pour expliquer donc, aux non-juristes, aux citoyens, aux militants, aux mouvements sociaux, le contenu, la portée de ce droit, avec des exemples concrets, à quoi ça sert, et comment ça marche, quels sont les mécanismes au niveau national, international, régional, etc. Donc, dans cette série, on a publié récemment deux livres, donc, justement par rapport à notre travail à l'ONU sur le dossier des paysans et transnational, le droit à la terre pour les paysans et l'impunité des sociétés transnationales concernant ce processus de négociation à l'ONU.
C'est important, hein, l'information véritable, la contre-information. Et là, je crois que vous faites vraiment un travail énorme. Ces publications coûtent cher. Est-ce que vous arrivez? Le financement, c'est compliqué? Ou là aussi, on peut lancer un appel, soutenir le CITIL?
Oui, bien sûr, ça coûte extrêmement cher, mais il y a une bonne dose du bénévolat.
D'accord.
Donc, à la fois de notre part, à la fois des gens autour de nous. Mais nous avons bien sûr toujours besoin de l'argent. C'est bienvenu. Donc, vous avez parfaitement raison. Malgré cela, on essaye de continuer et puis garder la tête hors de l'eau, comme on dit.
Comment est-ce qu'on peut se procurer ces livres? On les achète sur le site internet du CITIL?
On peut commander, voilà. Effectivement, si on est à Genève, on peut passer aussi au bureau. Mais sinon, c'est diffusé en librairie ou en réseau associatif.
D'accord. Donc ça, c'est les principales
aussi,
sources.
Ouais.
Très bien. Je vous remercie beaucoup. C'est vrai que j'allais vous poser des questions. Il y en aurait d'autres, mais on posera ces autres questions à un autre moment. Mais les figures tutélaires comme celle de Thomas Sankara, dont on peut dire qu'il lançait l'alerte en 87, déjà quand il parlait de la dette. Voilà.
Exact.
Il y aurait évidemment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Pour aujourd'hui, on va en rester là, à moins que vous ayez envie de compléter encore d'une phrase ou de quelques mots. Et puis, on en terminera là pour aujourd'hui en se disant à bientôt, quoi qu'il en soit. Je veux d'ores et déjà, Méli Kosden, vous remercier. Donc, vous êtes le directeur du CETIM et le responsable du programme des droits humains, et Raffaele Morgantini, c'est ça, voilà. L'assistant du programme droits humains, c'est ça, je ne me trompe pas. Alors voilà, je vous livre les micros ouverts pour une dernière petite phrase, une dernière petite citation, et ensuite on se dira au revoir.
Alors, puisqu'on on parle aux jeunes, n'est-ce pas, les jeunes qui nous écoutent.
Oui, les étudiants, beaucoup, beaucoup, oui, tout à fait.
On a parlé de cette collection de Pensées d'hier pour demain. Ce livre vraiment est destiné aux jeunes générations, puisqu'elles n'ont pas connu donc, ces leaders africains. La plupart ont été tués, malheureusement, hein, dans la lutte. C'est pour présenter leur pensée et leur action politique dans un format de poche. C'est 96 pages. Et ça ne coûte pas trop cher, hein, c'est 11 francs. D'accord. C'est vraiment pour expliquer leur action et leur pensée. Et les gens qui veulent aller plus loin, il y a une bibliographie à la fin donc, pour aller plus loin.
Tout à fait.
Juste pour préciser, c'est des recueils de textes. Hein, donc, les membres du CETIM, de la maison d'édition, ont essayé de trouver les meilleurs textes et surtout les textes qui ont encore une actualité aujourd'hui.
Ouais.
Voilà, donc c'est l'idée de la collection, voilà, d'où le nom, les pensées de hier pour demain. Donc, comment utiliser les enseignements, les raisonnements, les discours et tout ce que ces leaders africains ont apporté à la lutte, et comment les utiliser aujourd'hui dans notre quotidien, dans notre lutte. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous acheter cette collection. pour Noël, en fait, on a une... comment dire,
un petit marché de Noël, vous faites
une action. Il y a les 10 livres, donc on a 10 livres des collections de pensées de hier pour demain
au prix de 8.
Au prix de 8.
D'accord.
Hein, donc
c'est
10 livres sur 10 leaders. Donc on a Nasser, on a Niobe, on a Sankara, Fanon, Lumumba, Kizerbo,
Cabral,
Nyerere,
les noms illustres.
Voilà, il y en a encore deux.
Juste peut-être encore une précision concernant la publication. Les livres, comme je l'ai déjà dit, sont diffusés à travers les librairies, par les voies associatives, où on peut commander en ligne sur le site de Septim, où on peut passer au bureau si on est à Genève, pas très loin. Par contre, les publications dans la série des droits humains sont disponibles gratuitement sur notre site en 3 langues, anglais, français, espagnol. On peut télécharger librement. Et puis, un dernier appel encore, s'il faut rappeler. Donc, nous avons besoin de membres, donc, vraiment pour élargir notre base, pour pérenniser nos finances. Donc, c'est très important. Et puis, des dons, si possible, de soutien, que ce soit pour des traductions, pour des relectures, pour des personnes qui ont des capacités, des compétences dans ce domaine.
Très bien, très bien. Je vous remercie beaucoup. On va terminer avec Analyser, Informer, Agir, Centre Europe Tiers-Monde pour des relations Nord-Sud équitables, pour la justice sociale, pour le respect des droits humains. Et puis on termine par le magnifique aphorisme. Il n'y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé. On invite tout le monde à évidemment rejoindre ou au moins se tenir informé au travers du site du CETIM. Le Centre Europe Tiers-Monde, c'est cetim.ch. Le mot de la fin, Raphaël?
Non, c'est bon. Merci beaucoup pour nous écouter.
Merci pour l'invitation.
Merci pour l'invitation. Et je vous invite comme Mélik a dit, à passer carrément au bureau, à discuter avec nous. Donc nous, on est bien sûr ouverte à la discussion. Il faut discuter, les gens doivent s'intéresser. Le débat public doit s'élargir. Donc on est là pour ça.
On a bien noté en tout cas. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon week-end.
Merci à vous.
Voilà, petite pause musicale, puis on revient avec la suite des opérations. Allez, allez, hop, c'est parti.
Qu'il y a de plus beau. On me vante les bienfaits du monde intelligible, mais je préfère m'en évader vers le sensible. Qu'il est bon de pouvoir céder au sommeil et se laisser porter au pays des merveilles. Cette réalité folle au profit de celle de Lewis Carroll. Je n'ai qu'un désir à la fin de mes journées noires, m'assoupir, m'enfuir à travers le miroir. Laisse-moi tranquille, maudit lapin blanc. Je ne te suivrai pas ici, je suis tout puissant. J'ai perdu mes douleurs, ma fatigue et mes cernes. Je suis enfin de retour dans ma